Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Dans le monde, 3 adultes sur 4 se déclarent croyants. Chrétiens, musulmans et hindous pour l'essentiel. En France, la tendance est à peu près inverse. 58% des Français disent n'être affiliés à aucune religion, selon l'enquête européenne sur les valeurs. Pourtant, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne croient pas. La religion n'est pas la seule à détenir les clés des croyances. Dans un monde très matériel, chacun a la liberté de cultiver son jardin immatériel. Un peu de chamanisme par-ci, d'animisme par-là, mais aussi un peu de vendredi 13 ou de malheureuses théories du complot. Il est immense, le champ des croyances. Qui n'a jamais touché du bois ou évité, dans le doute, de passer sous une échelle? Alors ce matin, on se demande pourquoi, à quoi, en quoi nous croyons ou pas, d'ailleurs. Êtes-vous croyant, non-croyant? Appelez-nous au 01 45 24 7000. Caroline et Camille attendent vos appels. Ou bien racontez-nous, racontez-vous sur l'appli de France Inter. Merci d'être avec nous ce matin. Grand bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter. Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Bah, moi je suis superstitieuse depuis que je suis toute petite, donc dès que je vois une échelle, je passe à côté.
Ouais, un peu pareil, ça m'inspire pas vraiment confiance, du coup je préfère l'éviter.
Oui, on est vendredi 13 aujourd'hui. Et c'est vrai que bah moi ça m'évoque pas mal de choses, notamment le jour de rencontre avec ma femme et le jour où elle m'annonçait où j'allais être papa. Donc c'est vrai que vendredi 13 évoque quand même beaucoup de choses pour moi.
Ma mère me disait tout le temps quand j'étais petite, mets pas des habits neufs le vendredi, ça porte malheur s'il te plaît.
Tout le monde a besoin un peu de spiritualité et c'est vrai que ça fait du bien des fois de croire au hasard.
Trois invités pour parler des croyances aujourd'hui. Jean-François Dortier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et fondateur du magazine Sciences Humaines. Isabelle de Golemin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du journal La Croix. Et Thierry Ripoll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université d'Aix-Marseille. Alors, ça peut peut-être interpeller de mettre côte à côte la foi et les superstitions, comme je viens de le faire en préambule. Mais c'est la thèse de votre ouvrage, Thierry Ripoll. Pourquoi croit-on, hein, dans ce livre? Vous nous expliquez que toutes les croyances, selon vous, procèdent du même fonctionnement cognitif.
Oui, tout à fait. Les croyances se distinguent. Chacune a un contenu propre et on ne peut pas mettre du tout au même niveau la croyance dans le fait qu'il faut toucher du bois avant d'entreprendre quelque chose de périlleux et croire en Dieu. Mais les processus sous-jacents sont très similaires. Il y a quelques petites variantes, mais globalement, ce qui nous conduit à croire relève à peu près des mêmes processus cognitifs, effectivement.
Ça signifie qu'il se passe sensiblement la même chose dans le cerveau?
Oui, bon, dans le cerveau ou dans l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, ça revient à peu près au même. Oui, ça veut dire que les processus qui nous conduisent à adhérer de manière très très forte à des croyances que j'appelle infondées au sens où rien empiriquement ou théoriquement ne permet de les soutenir fortement, les processus sont exactement de même nature. On pourrait d'ailleurs faire passer un ensemble de tests pour évaluer le profil cognitif de sujets croyants et on verrait qu'en des croyants qui croient au chamanisme, à des quelconques pouvoirs surnaturels ou tout simplement en Dieu, eh bien on observerait que ces croyants, en moyenne, se comporteraient d'une manière similaire par rapport à ces tests.
Isabelle de Golemin, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de paradoxe à se dire que finalement, si on suit la théorie de Thierry Ripoll, hein, la Terre plate ou la réincarnation bouddhique procède du même cheminement?
Non, je crois pas. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de croyance. D'ailleurs, on croit que demain il va me faire meilleur, ou on croit que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020, etc. Donc, je pense que tout ça, effectivement, nous fait vivre quelque part. Alors après, il faut distinguer croire et croire en un monde surnaturel, ce qui est déjà une première distinction. Et puis ensuite, là-dedans, il y a le système religieux qui va organiser cette croyance. Et c'est vrai que ce qui est compliqué aujourd'hui, notamment dans les pays très sécularisés comme la France, c'est que il y a plus une religion qui a le monopole de ses croyances. Avant, elle organisait ça. Donc même s'il y avait encore de la superstition, on va dire qu'elle la christianisait, elle en faisait un système. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc je pense que la croyance, que montre très bien effectivement l'enquête sur les valeurs et croyances, qui a maintenant 40 ans d'existence, donc qui a toute une longue durée, c'est que la croyance, les croyances, elles n'ont pas disparu. Elles sont même plus fortes. C'est très intéressant. On croit plus aujourd'hui en un monde au-delà qu'autrefois. Mais par contre, elles sont complètement diverses. Chacun croit comme il veut, ce que vous avez bien dit en introduction. Il n'y a plus un système système où on est tous d'accord là-dessus. Donc il y a vraiment une individualisation des croyances, ce qui peut effectivement ensuite aller vers des dérives, tout ce qui est fake news, croire en des choses qui sont pas vraies, parce que avant c'était plus simple quelque part, il y avait une forme de monopole et toute une institution qui organisait ça.
En tout cas, ce que vous rappelez dans votre revue Les Humanologues, Jean-François Dortier, c'est qu'au XXIe siècle, trois quarts des humains croient en l'existence d'une divinité, qu'on l'appelle Dieu, Jésus, Allah, Vishnu ou Shiva.
Oui, effectivement. Encore qu'il faut être prudent avec les enquêtes internationales sur la croyance, parce qu'on a tendance à dissocier, d'une part, des croyants, qui seraient des adeptes de religions instituées, et puis les non-croyants dans lesquels on va mettre les athées. En fait, il y a tout un spectre, tout un continuum au sein des croyances, des gens qui adhèrent à une foi. Il y a des gens pour qui la religion est quelque chose d'important, parce que ce sont des fervents, voire des mystiques qui entretiennent un lien très très étroit avec leur divinité de prédilection. Effectivement, ça peut être Jésus, ça peut être Allah, ça peut être Vishnu, voire Ganesh. Et puis, il y a des gens pour qui il y a une certaine distance, qui croient sans croire et qui disent simplement « Écoutez, moi je pense qu'il y a quelque chose ». Et là, évidemment, ce type de croyance est assez distancié. Et de la même façon, chez les gens qui se déclarent non-croyants, il y a en fait des athées purs et durs qui soutiennent la non-existence de Dieu. Et puis il y a des agnostiques, et puis il y a des gens qui doutent. Donc il y a maintenant beaucoup de gens aussi qui se réclament non-affiliés, c'est-à-dire refusent de se reconnaître dans une religion particulière, le christianisme ou l'hindouisme ou le bouddhisme, et ils disent simplement « je crois qu'il y a quelque chose ». Donc c'est une forme de déisme, d'appartenance un peu vague.
Mais quel est ce quelque chose ?
Alors, quel est ce quelque chose ? Donc là aussi, il y a tout un spectre. Le propre d'une religion, normalement, c'est d'avoir des divinités quand même. C'est le béaba qui prennent des formes tout à fait différentes. Alors nous, on est en Occident, on est marqué par la tradition monothéiste, celle du Dieu créateur, c'est le même Dieu hein, qui est celui des Juifs, celui des musulmans, celui des chrétiens. Si vous changez d'horizon et que vous allez chez les aborigènes d'Australie, les divinités ressemblent à autre chose. Vous avez des divinités animales, vous avez des divinités qui ressemblent, celles des ancêtres, qui peuvent se transformer en dieux. Si vous alliez chez les Égyptiens, eh bien, il y a des dieux comme Isis, Osiris, avec toute une constellation de personnages qu'il y a autour. C'est-à-dire, autour des dieux, il y a des anges, il y a des démons, il y a des demi-dieux, il y a des humains qui se sont transformés en dieux. On trouve ça à peu près dans toutes les religions. C'est ça qui est assez troublant. Mais le deuxième élément qui est assez important, c'est qu'on a souvent tendance à assimiler la religion avec la croyance. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants à prendre en compte. Toutes les sociétés humaines ont produit des systèmes religieux dans lesquels il y a un ensemble, il y a un au-delà, un arrière-monde peuplé d'êtres invisibles, mais qui ont une action sur nous. Et donc, il y a toujours un culte qui est associé. C'est-à-dire que les dieux, ils servent à quelque chose, on leur demande des services, de nous protéger, ou parfois, ils nous punissent si on fait le mal. Et donc, c'est relié à des règles morales, à des lois, et puis toute une série de personnages qui sont des intercesseurs avec le sacré. Alors, ça peut être un chaman, ça peut être un prêtre, ça peut être un rabbin, ça peut être un gourou, et donc, il y a une matrice commune au-delà de la diversité des formes religieuses qui sont infiniment variées.
Alors, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un film, c'est Guerre et amour de Woody Allen avec Diane Keaton. Elle croit, lui non, et ça donne un savoureux dialogue.
Si j'admets ta théorie selon laquelle Dieu n'existe pas et que l'homme a le droit d'agir en toute chose comme il le désire, je te demande à ce moment-là ce qui l'empêche de commettre un meurtre.
Mais le meurtre est immoral.
Et l'immoralité est subjective.
Ah oui, mais la subjectivité est objective.
Jamais dans le schéma rationnel de la perception.
La perception est irrationnelle, elle implique l'imminence.
Mais le jugement de tout système ou d'a priori relation de phénomène existe dans toute rationnelle ou métaphysique ou au moins épistémologique contradiction à un concept abstrait et empirique tel que par exemple être ou ne pas être ou encore intervenir à cause de la chose ou pour la chose elle-même.
Oui, comme ça au moins je comprends.
Je ne sais pas ce que comprend réellement le personnage joué par Woody Allen, parce que moi personnellement je ne comprends rien. À commencer d'ailleurs par ce verbe croire, Isabelle de Golemin, qui porte en lui beaucoup de contradictions. Quand on croit, on n'est pas sûr finalement, il y a toujours l'espace du doute. Mais en revanche, pour les croyants, croire, quand on croit en l'existence de Dieu, on est sûr de l'existence de Dieu.
On est sûr qu'il y a quelque chose, mais peut-être qu'il faudrait distinguer croire et la foi. Croire, c'est effectivement ce qu'on a bien dit tout à l'heure, c'est penser qu'il y a quelque chose. La foi, c'est sans doute plus spécifique aux religions monothéistes et en tout cas bibliques. C'est-à-dire, c'est la foi, c'est la confiance, c'est fidesse. Hein. C'est penser qu'il y a un Dieu en qui on peut avoir confiance, qui ne nous abandonnera pas, qui n'abandonnera jamais son peuple, et qui abandonne tellement peu son peuple que pour les chrétiens, il est venu sauver les hommes et donc il a envoyé son fils. Donc c'est vraiment un lien beaucoup plus individuel qui est assez différent, je trouve, d'une croyance générale. Et peut-être que le problème du christianisme, c'est qu'on a un peu oublié cette foi, fidesse, et qu'on en a fait surtout un système de valeurs et quelque chose de très institutionnel. Et finalement, quand ces valeurs se sont quelque part ont été mises en cause par la science au XVIIIe siècle, petit à petit, il n'est plus rien resté parce qu'on avait oublié le côté foi. Donc c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'il faut distinguer. Et ce que dit très bien le film, c'est marrant parce que la femme dit mais s'il y a pas de Dieu, il y a pas de valeur. On peut tuer, on peut tout faire. Et effectivement, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui est commun dans une société où il n'y a plus un Dieu unique quand tout le monde croyait dans le même système religieux, etc. Finalement, c'était moins compliqué. Aujourd'hui, on doit faire une société avec des gens qui ont des croyances très différentes et quand même trouver des valeurs communes. Et c'est tout le problème du vivre ensemble aujourd'hui.
Oui, mais quand on y regarde de près, finalement, croyants et incroyants ne se comportent pas si différemment que ça. Enfin, il y a des valeurs qui sont communes, le respect de la nature, l'amour, l'humilité, la bienveillance, ne pas aller tuer son prochain pour reprendre un commandement. Il y a des valeurs communes, Thierry Ripoll.
Oui, tout à fait. Non, ce que je voudrais dire, c'est que le problème, c'est que les mots du langage courant sont forcément des abstractions, et des abstractions qui recouvrent pas très bien le réel, parce que croire, c'est une dimension très dichotomique, je crois, je ne crois pas, alors qu'en réalité, il y a toute une gradation possible entre le fait de croire, au sens je fais une hypothèse de quelque chose, sans y adhérer totalement, et la croyance qui devient, je dirais presque radical ou fanatisé, qu'on peut trouver dans la religion, mais pas que dans la religion, bien sûr, où là, il n'y a plus aucune possibilité de remettre en question la croyance. Mais par contre, ce qui me paraît très important, enfin dans le petit extrait du film de Woody Allen, qui est, c'est vrai, tout à fait
oui, savoureux, mais
malgré tout, il y a quelque chose d'intéressant et qui fait de la croyance religieuse une croyance particulière, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire que pour beaucoup d'anthropologues, cognitivistes notamment, les hommes ont inventé les dieux à un moment donné où ils avaient besoin de valeurs pour organiser leur société, une société qui était devenue une société anonyme, puisque jusqu'au paléolithique, les hommes vivaient dans des groupes de quelques dizaines ou centaines d'individus qui avaient des relations souvent fraternelle, de proximité, et qui était une forme d'inhibition à la violence. Quand on a commencé à construire les grandes villes du néolithique, qui comportaient des gens qui ne se connaissaient pas, la violence était terrible. Il ne faut pas oublier que la violence à cette époque-là était bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, il a fallu trouver une voie transcendante, qui était la voie d'un dieu, qui allait pouvoir poser des règles, des valeurs qui pouvaient être des obstacles à la violence qui risquait de déferler sur tout ce petit monde. Donc, en ce sens, la croyance religieuse est très particulière parce qu'elle a une fonction sociétale que n'ont pas les autres croyances.
Jean-François Dortier.
Oui, effectivement, on a tendance aujourd'hui à assimiler la croyance et la religion. Aussi curieux que ça puisse paraître, il est des religions où la croyance, c'est pas quelque chose d'important. Si on remontait quelques siècles en arrière, on allait chez les Grecs et chez les Romains, il y avait des dieux, il y avait des croyances, les Athéniens avaient Athéna, ils avaient Zeus, les Romains avaient Jupiter, ils avaient le dieu de la guerre, il y avait le dieu du commerce, voilà. Mais on ne demandait pas aux individus d'y croire ou ne pas y croire. C'était relativement laissé. Ce qui était laisser à la liberté de chacun. Mmh. Ce qui était important, c'était de respecter les rites, c'est-à-dire les lois qui avaient été données par les dieux. Les chrétiens, par exemple, ont été persécutés par les Romains, non pas parce qu'ils croyaient en un autre dieu. Les Romains, ils étaient polythéistes, ils étaient prêts à accueillir tous les dieux de la terre. Et d'ailleurs, quand ils soumettaient une région, ils faisaient rapidement monter un dieu à l'Olympe, enfin, à Rome, pour permettre aux gens d'avoir leur culte. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont persécuté les chrétiens ? Eh bien parce que les chrétiens refusaient de respecter le rite. Et le rite, c'était sacrifier aux dieux, c'est-à-dire venir simplement, régulièrement, comme un bon citoyen, pour les Jeux Olympiques, pour les rituels civiques. Et donc beaucoup de sociétés comme ça ont assimiler la religion simplement à un ensemble de lois, de règles qu'il fallait respecter. Si vous refusiez de les respecter, ce qui était le cas des chrétiens, parce qu'ils disaient « Non, moi je ne refuse d'aller sacrifier au dieu Jupiter », eh bien là, ils pouvaient être condamnés à mort. Donc aujourd'hui, on a tendance, et il y a un livre admirable de Paul Venn qui s'appelle « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» et qui montre que à une certaine époque, dans l'Antiquité, la croyance ou la non-croyance n'était pas quelque chose d'essentiel.
Sur France Inter, pourquoi croit-on ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous, croyants ou non-croyants. Intervenez sur l'appli de France Inter ou au 01 45 24 7000. Leur album fait partie des 10 meilleurs d'après les programmateurs musicaux de France Inter. Les Black Pumas et ce titre Black Cat, c'est toute la programmation musicale et sur le site internet de l'émission.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Grand bien vous fasse.
Marie-Thérèse, ne jurez pas.
Thomas Chauvinot.
Maman, pourquoi vous criez ?
Maman, peut-être pas. Mais peut-être comme la Vierge Marie.
Écoute, ça va, hein ? Ça, c'est sûr.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse aux croyances en ce dernier jour de l'année 2020. Pourquoi croit-on, avec Thierry Ripoll, professeur de psychologie et auteur de ce livre justement, Pourquoi croit-on, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef au journal La Croix, et Jean-François Dortier, qui est sociologue et fondateur du magazine Science Humaine. Et puis vos témoignages sur l'appli de France Inter. Michel nous dit, pourquoi croit-on ? Pour moi, être athée, c'est aussi une forme de croyance, puisque croire que Dieu n'existe pas, c'est une croyance. Je suis agnostique, puisqu'on n'aura jamais aucune certitude. Michel nous dit, nous croyons peut-être pour dépasser les questionnements insolubles et bloquants. Vanessa, je crois en Dieu, en la vie et l'amour. Dieu, vie et amour, avec une lettre capitale à chaque fois. Xavier nous dit, bonjour, ne pas confondre les religions monothéistes, ne pas confondre religion et monothéisme, s'il vous plaît. Il y a encore quelques polythéistes sur Terre, en France aussi. Et puis Jean-François qui nous dit, non, je ne crois pas en Dieu. Et pour une fois dans ma vie, je suis sûr et certain d'avoir raison. Je n'aurai jamais un contradicteur en face de moi qui m'apportera une preuve flagrante que Dieu existe. C'est bien toute l'histoire de la religion et de Dieu. Hein. C'est l'essayiste Maurice Chaplin qui le disait. La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve, Isabelle de Golemin.
Oui, de fait, et c'est intéressant parce que vos auditeurs, on voit bien qu'il y a une palette, et c'est ça qui est très moderne, c'est que chacun finalement a son propre choix. Et l'extrait de c'est la vie est un long fleuve qu'on tranquille, hein, je pense.
On vient d'entendre,
oui. Vous avez voilà, c'est ça aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ce qu'on disait tout à l'heure sur la distance entre la croyance et la foi, elle existe toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une enquête récente qui montrait que il y a à peu près 45% des Français qui se disent chrétiens. Mais là-dedans, il y en a juste la moitié qui pensent que le Christ est ressuscité, ce qui est quand même le fondement même du christianisme. Donc on voit bien que les gens se disent dans une religion, mais n'adhèrent pas forcément à tous les dogmes de cette religion. Donc il y a toujours cette même distance.
Les aménagements.
Et puis par rapport à... Voilà, il y a des aménagements. Puis c'est vrai que par rapport à tout à l'heure, quand vous me disiez, mais finalement, est-ce que il n'y a pas les mêmes valeurs entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'on est sur une civilisation qui est encore très imprégnée de christianisme ou de judéo-christianisme. Et c'est finalement les 10 commandements, hein, c'est ces fameux 10 commandements que Dieu a donné à Moïse et qui continuent quand même à, on va dire, nourrir, à innerver tout notre système de droit, nos systèmes de reconnaissance de l'autre, etc. Et quand Kant s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun à l'humanité en dehors des croyances, hein, il a dit cette règle d'or, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc il y a quand même quelque chose qui est commun, quel que soit le Dieu auquel on croit.
Nous sommes aussi au téléphone avec François qui nous appelle au 01 45 24 7000. Bonjour François.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous vouliez témoigner, vous venez d'une famille catholique, nous dites-vous.
Alors oui, d'une famille catholique pratiquante et encore pratiquante aujourd'hui. Et moi-même, dans cette famille, moi qui ai été pratiquant pendant très longtemps, je suis passé par toutes les étapes des sacrements, hein, jusqu'au sacrement du mariage. Et aujourd'hui, je peux témoigner que je ne crois plus. Mais je ne crois plus non seulement dans la foi, mais aussi en dehors de ça. Depuis tout à l'heure, j'écoute l'émission, hein, et puis j'entends que les croyances ne se limitent pas à la religion et à la foi, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord, moi. On est dans un monde de croyances. Enfin, quand on entend aujourd'hui tous les débats sur les vaccins, je crois qu'ils fonctionnent, je crois pas qu'ils fonctionnent, je crois que tel médicament fonctionne, etc. Moi, je suis embêté par ça. Et c'est un fonctionnement qui m'embête aujourd'hui dans la société, hein, que tout soit basé sur les croyances et pas sur des connaissances, pas sur des raisonnements logiques, pas sur des choses posées sur des expériences et sur du réel, mais sur la conviction qui est du côté de la croyance. Et ça, c'est là-dessus que je voulais apporter mon témoignage.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez cessé de croire en Dieu, en tout cas, François ?
Alors. Je disais au standard, ben je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a fait ne plus croire. Je sais, j'ai pu constater au moment du décès de mon papa, au moment de ses funérailles, que je ne croyais plus. Mais je ne sais pas à quel moment cette étape-là est venue. Je pense que c'est mon expérience de vie, peut-être de militantisme, etc., qui m'a fait ne plus croire à quelque chose que je ne sais pas en fait. tout à l'heure, il y avait l'un des intervenants qui parlait de la question du doute. Moi, j'ai toujours une foi de doute. Mais je pense que là, le doute, il n'est plus d'actualité. On n'est plus dans le doute, on est dans... Ça reste une conviction, mais une conviction que, bon, voilà, le réel de ce que je vis ne porte pas à croire qu'il y aurait un dieu, qu'il y aurait un dieu ou des dieux, ou un au-delà, ou un là, un paradis, etc., etc., ou des esprits, ou qu'on puisse avoir quelque chose comme ça.
Donc ce monde invisible n'existe plus pour vous. Ben merci François de nous avoir appelé aujourd'hui. Ces croyances infondées, Thierry Ripoll, vous les passez en revue dans votre livre, ce que vient d'expliquer François, à la fois cette foi qui disparaît, mais aussi ce monde pétri de croyances et donc de fausses informations.
Oui, en fait, je pense que la croyance, notamment la croyance religieuse, est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque cette croyance a structuré le monde, elle a fait l'histoire de ce monde, alors que de toute évidence, rien ne nous permet très clairement de pouvoir asseoir cette croyance. Donc c'est très troublant de voir que quelque chose dont on peut fondamentalement douter est aussi ce qui a peut-être le plus structuré notre histoire. C'est tout à fait impressionnant ce décalage. Les croyances sont hyper présentes dans notre société, comme le disait François, et je comprends totalement son regret. Ça représente un réel danger. Alors, les croyances ne sont pas toutes dangereuses, heureusement, et parfois elles sont même utiles pour les croyants eux-mêmes, mais elles peuvent être très dangereuses, et dans une société comme la nôtre, où on voit depuis quelques années une résurgence de la croyance, pas forcément de la croyance religieuse, hein, de la croyance tout court, je crois qu'il y a quelques raisons d'être inquiet. Et quand on sait que le niveau de croyance est en général boosté par le niveau d'incertitude et d'anxiété ou le sentiment de non-contrôle, on peut craindre que les croyances prennent encore plus de vigueur dans les décennies qui viennent. Je veux dire, on a vu par exemple avec la crise, la pandémie actuelle, qui a été source d'anxiété, on a vu à quel point des croyances en tous sens se sont développées, et des croyances qui ne sont fondées sur rien. Et on voit aujourd'hui nos États, particulièrement la France, qui est confrontée à un problème incroyable, c'est-à-dire que on a à disposition désormais un vaccin qui est susceptible de mettre un terme à cette pandémie, et on observe qu'une bonne part des Français demeurent très sceptiques. Alors c'est pas vraiment du scepticisme, c'est une croyance détournée en quelque sorte, parce que leur croyance concernant le vaccin, si vous interrogez la plupart des Français qui doutent, ne s'appuie sur rien. Quand on leur demande est-ce qu'ils ont été voir les données statistiques, est-ce qu'ils ont été lire quelques revues dans le domaine médical, qui sont pas toujours très compliquées à lire, non. En fait, ils fondent leur croyance sur la base de quasiment rien. Et ça, c'est un énorme problème.
C'est un danger. Isabelle de Golemin.
Oui, je trouvais que l'intervention de François est intéressante. Peut-être d'abord dire que peut-être que c'est à partir du moment où on doute que l'on croit, ce que disent beaucoup, par exemple, de grands saints, de mystiques qui sont souvent dans le doute, qui sont dans ce qu'on appelle les nuits de la foi. Donc peut-être que le doute est indispensable à la foi. Et puis la deuxième chose, quand il fait de manière assez juste, je trouve, la différence entre croyance et connaissance, c'est quelque chose auquel les religions ont été confrontées et sont encore confrontées, les religions, on va dire, instituées, hein, monothéistes ou pas. Par exemple, quand il y a eu cette fameuse polémique ou disputatio à propos de Galilée, en disant la Terre est ronde, non, elle est plate parce que Dieu l'a créée comme ça, et c'est vrai que à l'époque, la religion était dans la croyance et refusait la connaissance. Elle a dû accepter de dire qu'il y a deux domaines distincts, le domaine de la connaissance, qui n'est pas le domaine de la religion, et le domaine de la croyance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on mêle un peu tout, et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est que on ne se distingue plus ce qui est scientifique et ce qui est du domaine de la croyance. Et je crois que c'est un petit peu comme si on était redevenu dans un monde magique magique, finalement, où il y a de la magie, il y a de la superstition partout, qui n'est pas organisée. Donc chacun se fait sa petite magie, sa petite superstition. Et de fait, ça peut donner lieu à des dérives assez dangereuses qu'on voit aujourd'hui sur les vaccins.
Ce que vous rappelez dans votre revue Humanologue, Jean-François Dortier, c'est que la croyance religieuse, finalement, c'est une façon de dompter l'inconnu.
Oui, c'est un des premiers éléments. La religion a ce pouvoir extraordinaire de capter toute une série de besoins ou d'aspirations humaines. Alors, l'une des premières, effectivement, c'était d'expliquer le monde, expliquer la nature,
expliquer ce qui ne s'explique pas, justement.
Voilà. Alors, cela dit, sur l'explication du monde aujourd'hui, le système s'est un peu retourné en son contraire. C'est-à-dire, quand vous viviez avant le 15e siècle, en gros, pour expliquer la présence même du monde, les arbres, les planètes, le soleil qui tourne autour, vous deviez faire appel à une force extraordinaire, mystérieuse. Bon. Et on ne pouvait pas imaginer qu'il n'existe pas un créateur qui a inventé tout cela. La situation s'est retournée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un modèle scientifique qui conteste, qui, comme disait Newton, on peut se passer de l'hypothèse de Dieu. Donc aujourd'hui, par contre, c'est le fait de croire à un Dieu créateur qui est devenu quelque chose de plus énigmatique. Il y a un grand livre de Lucien Febvre, c'est un historien qui disait le problème de l'incroyance au 15e siècle, c'est-à-dire que au 15e siècle, vous ne pouviez pas être non-croyant. Et aujourd'hui, au 21e siècle, vous devez justifier d'être croyant parce que comment est-ce qu'on peut croire à la résurrection du Christ, à une vierge immaculée conception, au miracle, à Sainte Thérèse en lévitation. Tout ça est de l'ordre de l'extraordinaire. Donc il faut essayer de l'expliquer. Mais je crois que en se polarisant sur cette question de la croyance, on oublie aussi qu'effectivement une des fonctions principales de la religion, c'est pas de savoir si un Dieu existe ou pas. Pour l'essentiel des croyants, c'est pas un débat métaphysique pour savoir s'il y a un créateur ou pas, c'est la question d'une présence. Et curieusement, on peut admettre qu'on veut une présence autour de soi, un ami imaginaire, c'est ce que font les enfants par exemple, ils admettent parfaitement qu'il n'existe pas, mais la présence d'une vierge, la présence d'un ange gardien, la présence d'un dieu peut être quelque chose d'important au-delà de la croyance ou non en son existence.
Alors la présence d'un dieu, la présence, l'existence d'un monde invisible ou des forces de l'esprit, comme le disait François Mitterrand lors de ses derniers vœux aux Français, il y a précisément 26 ans, jour pour jour.
Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. Aussi, je me permettrai deux recommandations. La première, ne dissocier jamais la liberté et l'égalité. Ce sont des idéaux difficiles à atteindre, mais qui sont à la base de toute démocratie. La seconde, ne séparer jamais la grandeur de la France de la construction de l'Europe. C'est notre nouvelle dimension et notre ambition pour le siècle prochain. Mes chers compatriotes, l'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République. Vive la France.
Voilà, ces forces de l'esprit qui ont été à l'époque quand même très surprenantes hein, de la part de François Mitterrand. En fait, il explique que selon lui, les religions divisent alors que la spiritualité réunit les hommes, Isabelle de Golemin.
Oui, ou peut-être, je ne sais pas s'il l'opposait à ce point-là. En tout cas, il disait qu'il y avait dans
c'est une phrase que j'ai de lui, il le dit vraiment.
Oui, mais après, il a dit aussi une messe est possible.
Oui, vous savez, il a dit beaucoup de choses.
Donc, en plus, il avait une éducation assez chrétienne, en fait, de son enfance. Donc, je j'irai pas jusqu'à, séparer religion et force de l'esprit. Et effectivement, les forces de l'esprit, c'est une manière, une croyance, hein, qu'il y a quand même quelque chose au-delà, puisqu'il dit là où je serai. Donc, c'est vraiment croire en l'au-delà, sans croire à tout ce que l'institution religion catholique elle-même a construit comme système pour cet au-delà. Et sinon, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la foi, le fait que la foi, c'est pas simplement croire ou pas à l'au-delà, mais c'est croire en une présence. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la confiance, c'est penser qu'il y a un Dieu dans lequel on peut avoir confiance, qu'il peut y avoir une relation entre l'homme et ce Dieu. Donc c'est pas simplement un système de connaissances.
Sur franceinter.fr, ces messages qui continuent de nous arriver. Michel nous dit « La croyance n'est-elle pas juste un signe de manque de confiance en soi ?» Mildred qui nous dit « Je crois en moi et en la bienveillance. » Michel, je crois en la formidable complexité de l'univers dont les mystères sont grignotés par l'intelligence humaine au rythme d'une souris s'attaquant à une montagne de fromage. Et puis James qui nous dit « Bonjour, même si beaucoup d'horreurs ont été et sont encore perpétrées au nom des religions, le monde serait-il encore plus dangereux sans les religions ?» C'est une question intéressante dont vous parlez dans votre revue d'ailleurs, Jean-François Dortier.
Oui, effectivement, parce que on a toujours présenté, vous savez, la religion, on donne cette définition qui serait liée à son étymologie, c'est ce que relie ensemble les gens. En fait, cette étymologie est sans doute
elle
fausse.
Est contestable.
Elle est très contestable.
Ouais. Et ça, c'est intéressant, c'est rare qu'on le dise. Voilà. On pense toujours que, en effet, religion, c'est reliaré, relié, donc
c'est relié. Alors, en fait, si on remonte à Cicéron, qui est le premier à donner une définition étymologique de religio, c'était relire. Et non pas reliés. Et alors, effectivement, chaque religion, par définition, même quand elle est clanique, elle est communautaire, elle vit à relier ensemble des individus d'un groupe. Mais parfois, c'est extrêmement clanique. Par exemple, les religions des aborigènes, chaque clan a sa propre religion et ses dieux. Et ça, c'est le cas de beaucoup de religions dans le monde. Et puis, évidemment, le versant opposé, c'est que dès lors que vous avez une religion clanique ou une religion monothéiste qui prétend à l'universalité, eh bien, vous allez vouloir imposer des règles à d'autres, et donc ça va être un facteur de discorde. Et donc, dans l'histoire des religions, elles ont toujours été un facteur de cohésion et en même temps un facteur de discorde, de conflit. Il n'y a pas de religion qui a échappé à cette ambivalence.
Mais en tout cas, ce n'est pas forcément relié, ça peut être aussi relire.
Ça peut être aussi relire, en tout cas c'est une définition possible effectivement du mot.
10h42, vous êtes bien sur France Inter et c'est Grand Bien vous fasse. Jusqu'à 11h, nous nous demandons pourquoi nous croyons en Dieu, en nous ou en rien.
Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle.
idylle de Vanessa Paradis et Muriel Pérez qui choisit la musique. Claire Destacan réalise l'émission avec la technique aujourd'hui Pauline Laverdure et Antoine Théboul. Et puis Julia Macarès, Manon Cancé, Alexia Rivière et Théo Denmats m'ont aidé à la préparation.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
On s'intéresse ce matin dans Grand Bien vous fasse aux croyances religieuses ou pas, et sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent. Jean-Pierre nous dit « Longtemps, je me suis défini comme athée. Aujourd'hui, je me refuse à me définir comme tel. Pour moi, ce n'est plus un sujet. Croire en moi ou en l'humanité, il y a déjà pas mal de boulot. Alors la création de divinité, vive la libre pensée qui seule nous fait devenir un être responsable », nous dit Jean-Pierre. Cet autre message concernant les fausses informations dont on parlait déjà un peu tout à l'heure, si on veut lutter contre les fausses informations, alors il faut lutter contre les religions qui sont les plus grosses fausses informations de l'histoire. Et puis ce message également qui nous arrive, croire ou ne pas croire en Dieu, c'est une question bien dérisoire. Ce sujet méritera qu'on s'y arrête le jour où un être humain donnera une définition de Dieu qui tienne la route, ce qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Trois invités pour parler de cette croyance, de ces croyances. Thierry Ripoll, qui est professeur de psychologie cognitive à l'université d'Aix-Marseille, Isabelle de Golemin, qui est journaliste à La Croix, et Jean-François Dortier, qui est fondateur et directeur de la publication du magazine Science Humaine, d'un nouveau magazine qui va bientôt sortir en kiosque, qui s'appelle Humanologue également, et vous êtes aussi sociologue. Dans ce magazine, d'ailleurs, Humanologue, vous rappelez la célèbre phrase de Nietzsche, « Dieu est mort ».
Oui, qu'il avait prononcé, qui n'est pas de Nietzsche d'ailleurs, parce que Gérard Nerval l'avait déjà dit. Donc Nietzsche, c'est à la fin du 19e siècle, c'était une idée assez commune selon laquelle le monde allait se séculariser. Max Weber, le sociologue, disait se désenchanter, c'est-à-dire que les dieux avaient disparu en fait des cieux, et peu à peu c'était un monde froid, sans croyance, sans enchantement qui s'imposait. Alors un petit malicieux au début du 20e siècle avait écrit sur un mur Nietzsche est mort, signé Dieu. En fait, les sociologues Nietzsche se sont trompés. On a cru que le XXe siècle allait être une grande période où la religion allait décliner. Et c'est le cas en partie, hein, dans beaucoup de pays, en Occident, en Chine aussi, vous avez aujourd'hui 70% d'athées, de gens qui ne se réclament d'aucune religion. Mais on a vu ressurgir, notamment à la fin du XXe siècle, une nouvelle poussée religieuse, une nouvelle effervescence religieuse. Alors, parfois à travers des choses qui font beaucoup de bruit et qui sont peut-être pas l'essentiel. Ce qui fait beaucoup de bruit, c'est évidemment l'islamisme radical, des communautés intégristes, soit dans le catholicisme, soit dans le judaïsme, qui se manifestent. Aujourd'hui, l'hindouisme nationaliste a aussi beaucoup de poids. Mais on l'a vu aussi ressurgir à travers une spiritualité un peu plus diffuse, qu'on a appelé le New Age. Vous savez, les croyances dans le chamanisme, aujourd'hui dans les sorcières, la religion Wicca. Et puis, il y a aussi ce grand effervescence des églises évangéliques, qui c'est assez important parce que on croit souvent que le christianisme est en déclin. C'est vrai en Occident sous la forme catholique, parce que l'Église a eu un grand magistère sur la société. Mais aujourd'hui, vous avez 80 millions de chrétiens en Chine, en Amérique latine, et peut-être que la religion du 21e siècle, ce sera l'évangélisme, qui est une religion qui nous ramène presque aux sources du christianisme, avec la présence du Christ comme un compagnon de vie, une sorte de coach spirituel qui est là pour vous accompagner.
Mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question, Isabelle de Golemin, pourquoi Dieu ou comment Dieu a survécu à l'âge de la science, de l'ordinateur, de l'ego triomphant, des smartphones, il est toujours là.
Oui, sans doute, il a survécu, sans doute parce qu'on a besoin de croyances. Alors, Dieu, ou comme vous disiez, l'au-delà, ou les forces de l'esprit. Et puis, il y a aussi beaucoup de manipulations sur les croyances, et il y a donc beaucoup de manipulations sur les religions. On le voit effectivement avec l'islamisme ou l'hindouisme. C'est-à-dire que quand une croyance devient un système, et qu'on se dit que ce système est bon pour tout le monde, et qu'on veut l'imposer à tout le monde, là, on va effectivement vers l'affrontement, et vers les guerres de religion, et vers l'intolérance. Et les religions ont donné beaucoup d'exemples de ça, d'ailleurs. Donc peut-être que, vous savez, il y a des chrétiens qui disent que la meilleure nouvelle pour le christianisme, c'est la sécularisation, paradoxalement. C'est-à-dire que finalement, on revient à ce qui fait la foi, Alors, est-ce que c'est les évangéliques ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, on revient à un lien individuel entre l'homme et Dieu, ou à quelque chose qui fait un lien de confiance, et on oublie toute cette institution, toute cette morale, toute cette autorité aussi politique qui finalement circulait autour de la foi et qui se justifiait par la foi, alors qu'en fait, ça ne la justifiait pas. Donc peut-être que la sécularisation est une manière aussi de reprendre une forme de foi de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus finalement acceptable que le système religieux comme autrefois.
Il y a peut-être puis, même pas forcément oui. Peut-être même pas forcément besoin de sécularisation. Thierry Ripoll, vous le rappelez dans votre livre, hein, Psychologie des croyances, pourquoi croit-on, c'est aux éditions Sciences Humaines, je crois que je ne l'avais pas dit. Vous écrivez, les hommes ont un goût immodéré pour la spiritualité, ils en ont sans doute autant besoin qu'ils ont besoin de boire et de manger.
Oui, je crois qu'il faut vraiment comprendre que la croyance est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que le fonctionnement cognitif, si vous voulez, du cerveau humain, nous porte naturellement à la croyance. Et ce qui est le plus étonnant quand on connaît les processus cognitifs qui régissent notre vie mentale, c'est pas le scepticisme, c'est pas la croyance, pardon, c'est le scepticisme. C'est-à-dire c'est tout à fait étonnant que les humains en soit parvenu à douter. Parce que naturellement, nous sommes portés à croire. La croyance religieuse est quelque chose de naturel. Et c'est la raison pour laquelle, même vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'à l'ère de la science, des smartphones, de la technologie, de tout ce qu'on veut, la religion demeure quand même très présente. Et oui, elle demeure très présente parce qu'elle est intuitive. Elle répond à une intuition. Les enfants n'ont pas besoin de recevoir une formation religieuse pour croire. Ils développent des croyances qui sont encore un peu archaïques, mais qui les prépare à la croyance religieuse, et ils ont ces croyances alors qu'ils ont 2 ans, 3 ans. Donc nous sommes des animaux qui sont portés vers la croyance, et ce qui est le propre du cerveau humain. Comme le disait Harari, vous verrez jamais des chimpanzés se prosterner devant un dieu. Vous pouvez les éduquer autant que vous voudrez, vous y arriverez jamais, parce qu'ils ne peuvent même pas concevoir ce type d'existence. Donc voilà, la religion demeurera, les religions disparaîtront. Je n'ai aucun doute sur le fait que pour autant que nous soyons encore sur Terre dans 40, 50 000 ans ou 100 000 ans, je suis à peu près certain que le christianisme n'existera plus, le bouddhisme n'existera plus, d'autres religions viendront. On est toujours victime de ce biais qui consiste à croire que nous sommes arrivés à un stade ultime de l'évolution et que psychologiquement, culturellement, nous évoluerons peu. Mais non, les religions vont évoluer, elles vont disparaître comme toutes les religions ont disparu par le passé. Mais la religion persistera parce que le système cognitif humain nous détermine à croire, et l'apostasie est quelque chose d'étrange, d'un point de vue d'un psychologue en tout cas.
Alors sur cette idée de vouloir croire en, on l'appelait force de l'esprit, on peut dire aussi monde invisible, je voudrais vous faire écouter ce que le dramaturge Éric Emmanuel Schmitt disait au micro de l'excellent Augustin Trapenard, c'était l'année dernière dans Boomerang.
Les gens ne se sentent pas heureux, mais c'est parce que l'invisible a disparu, parce que le spirituel a disparu, parce que le monde visible n'est plus couvert par un autre monde qui est le monde invisible, c'est-à-dire par le sens.
Ça voudrait dire ça, croire en fait, pour vous accéder au monde invisible?
Mais c'est faire en sorte que son esprit soit pas seulement une rationalité pragmatique, mais soit aussi le cœur et l'imagination. On ne peut pas vivre sans ces dimensions du cœur et de l'imagination. Notre expérience du monde, elle n'est pas seulement une expérience des objets et des êtres, elle est aussi une expérience du sens. Quand une naissance, c'est un fait, mais c'est aussi un événement, c'est-à-dire ça a un sens. Une mort aussi, un amour, un désamour, une maladie, une guérison. On est toujours en train de doubler notre expérience matérielle du monde d'une expérience immatérielle.
Isabelle de Golemin, je voulais vous faire réagir à ces propos tenus par Éric Emmanuel Schmitt.
Bah oui, je suis d'accord. S'il n'y avait pas de croyance, le monde serait triste. Et c'est pour ça que je crois que y aura toujours dans l'homme ce plus, cette espèce d'aspiration à un au-delà, à quelque chose qui fait sens. Et c'est sûr que on peut d'ailleurs, quand on regarde la manière dont un certain nombre de jeunes se radicalisent, alors en France dans la religion musulmane, on s'aperçoit que ça part au départ d'un manque de sens, d'une recherche de sens, d'une recherche de quelque chose qui donne donnerait une signification à leur existence. Alors c'est malheureux parce qu'ils vont vers la radicalisation, mais c'est vrai que je crois qu'il faut surtout ne pas se dire que la religion est finie. Au contraire, il y a les croyances seront toujours là, le système religieux sera toujours là, et heureusement, ce que dit très bien Eric Emmanuel Schmitt.
Sur franceinter.fr, Jocelyne nous dit « La religion n'a-t-elle pas été inventée pour rassurer l'homme sur sa mort ? C'est confortable d'imaginer qu'après la vie, il y aura quelque chose. » Alain nous demande « Pourquoi Dieu n'existerait-il pas ? Le hasard existe-t-il vraiment malgré la complexité du monde, du Big Bang à l'ADN ?» Et puis, cet autre message de Samy qui nous dit « Les croyances sont aussi une superbe thérapie pour apprivoiser la mort. Je ne suis pas croyant et je suis un peu jaloux des croyances. Cela doit être très rassurant de savoir qu'on ira au paradis ou en en faire, et c'est ce que vous dites aussi, hein, Jean-François Dortier, c'est que finalement, si Dieu existe, c'est pour nous rassurer.
Mais pas du tout sur le fait que ce soit une sorte de joker métaphysique qui nous permette d'avoir une vie dans l'au-delà. Ça, c'est le propre des religions de salut. Or, il y a beaucoup de religions qui ne sont pas des religions de salut. Si vous allez chez les aborigènes, il n'y a pas de vie après la mort. Et même dans le judaïsme antique, il n'y a pas de résurrection des morts. Il y avait un débat d'ailleurs entre est-ce que les morts vont ressusciter ou pas. Et pour l'essentiel, les gens demandaient chez les Grecs et les Romains aux dieux de les aider dans leur vie ici-bas. Donc l'idée que la religion soit en quelque sorte une sorte de réconfort pour l'au-delà. Dans le bouddhisme non plus, le bouddhisme prévoit la résurrection du corps, la réincarnation.
C'est pour donner un sens à notre vie d'ici-bas, si on peut dire ça comme
alors,
ça,
y a plutôt pas que alors, que d'abord, il n'y a pas que donner un sens. Beaucoup de religions ont une fonction thérapeutique. On demande aux dieux de vous protéger. Si vous allez chez les japonais, la religion shintoïste, vous allez offrir au petit dieu Kami un verre de saké ou quelque chose pour leur demander que votre enfance guérisse, pour leur demander que votre récolte soit généreuse. Donc dans beaucoup de religions aussi, on demande aux dieux de vous protéger, de vous aider, d'affronter les épreuves de la vie, et pas forcément celle de la mort. Et c'est une tendance qu'on a chez nous de croire que la vie dans l'au-delà serait une sorte de réconfort. D'ailleurs, on n'aurait pas inventé l'enfer si c'était simplement un réconfort. Donc, l'enfer, c'est quelque chose qui fait très très peur. Donc, je crois au contraire que la religion est faite essentiellement pour affronter les épreuves de la vie et pas forcément les épreuves de l'au-delà.
Reste que collectivement, et c'est ce que vous rappelez aussi dans votre ouvrage, Thierry Ripoll, les croyances peuvent se révéler dangereuses lorsqu'elles sont instrumentalisées.
Oui, alors, si vous me permettez, j'aimerais simplement réagir à l'interview d'Emmanuel Schmitt.
Oui.
Moi, je suis absolument pas d'accord avec cette position. C'est-à-dire que je trouve que c'est extrêmement caricatural de penser que parce qu'on n'adhère pas à des croyances du type de celles que l'on vient d'évoquer, on est dans un monde désenchanté, un monde triste. Absolument pas. Écoutez, je suis heureux, je trouve ce monde magnifique, je l'apprécie, et je ne suis croyant en rien du tout. Ça n'a aucun rapport. Et le fait de concevoir, par exemple, qu'une approche rationnelle, scientifique du monde manque de poésie, pour moi, signifie simplement que l'on ne connaît pas ce qu'est la science, parce qu'il y a une poésie, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, de magnifique dans la science, et quand on a accès à une spiritualité qui est pour moi directement dans la nature que je perçois, dans le monde que je perçois, je n'ai pas besoin de lui ajouter une spiritualité supplémentaire qui au contraire me paraît très fade, tellement commune, tellement simpliste. Excusez-moi,
je vais
un peu fort.
On a compris. Je ne suis pas superstitieux, disait Alphonse Allais, parce que ça porte malheur. Bah, merci en tout cas à tous les trois d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien Vous Fasse. On se retrouve demain, 1er janvier à 10h. On s'intéressera aux traditions du Nouvel An dans le monde entier.